France Inter.
L'heure de votre journal, Éric Delvaux. Bonjour Éric.
Bonjour mon cher Thomas et bienvenue à tous. À la une de ce 13h, les deux policiers de Bobigny accusés de viol sur une jeune femme dont ils avaient la surveillance ont été déférés ce matin dans l'attente de leur possible mise en examen. On fera le point dans un instant avec Jean-Philippe Deniaud. La France aura-t-elle bien un budget l'an prochain? Le calendrier reste très serré et l'incertitude est telle que certaines communes préfèrent ne pas voter leur propre budget, le cas à suivre de la communauté de communes de La Roche-sur-Yon. Nous serons à Rabat où des milliers de Marocains célèbrent le vote du Conseil de sécurité de l'ONU qui apporte un soutien historique au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. Nous serons en direct du Caire pour l'inauguration en fin de journée du grand musée, gigantesque projet sur la civilisation pharaonienne. Nous en parlerons avec notre invité, l'Égypte. Jean-Guillaume Olette-Pelletier. Et puis nous reviendrons sur cette polémique au sein de la Transat Café L'Or. L'un des équipages a accusé un avion d'avoir volé trop près du bateau jusqu'à lui faire perdre une voile. Eh bien nous verrons que la Marine Nationale donne ce matin une toute autre version. Le temps de ce samedi, Céline Dacosta, c'est un vrai week-end de Toussaint.
Oui, avec des averses encore bien présentes de l'Aquitaine vers le nord-est.
Et vos prévisions complètes dans une vingtaine de minutes. La fin de la garde à vue donc pour les deux policiers de Bobigny accusés de viol au sein du tribunal sur une jeune femme qui était déférée au parquet dans la nuit de mardi à mercredi. Les deux fonctionnaires parlent d'une relation consentie. L'un des deux policiers précise avoir filmé la scène avec son téléphone portable. Bonjour Jean-Philippe Deniaud.
Bonjour Éric.
Service politique, police justice de France Inter. Les deux policiers viennent donc d'être déférés en vue de leur possible mise en examen.
Oui, une probable mise en examen pour viol. Les deux hommes ont donc reconnu avoir eu une relation sexuelle avec la jeune femme placée sous leur responsabilité dans les geôles du tribunal de Bobigny. Il y a également cette vidéo retrouvée donc sur le portable d'un des deux hommes. Mais les fonctionnaires invoquent cette relation consentie, ce qui juridiquement est un argument assez fragile. Le statut de policier définissant la contrainte qu'ils ont pu exercer sur la plaignante, quand bien même elle aurait consentir un acte sexuel, la contrainte étant l'une des définitions du viol. Dès hier, le ministre de l'Intérieur commentait que s'ils étaient avérés, bien entendu, et la vidéo semble les avérer, ces agissements sont extraordinairement graves et inacceptables, d'autant que ces faits sont survenus, rappelons-le, le jour même de l'adoption par le Parlement de la loi sur le consentement.
Oui, et qu'est-ce que l'on sait, Philippe, du profil des deux policiers?
Ils ont 25 et 35 ans, pardon, ils sont de jeunes policiers dans la fonction, comme la plupart des 116 fonctionnaires affectés à la surveillance de ce dépôt situé au sous-sol du tribunal judiciaire de Bobigny, un poste relativement ingrat vu l'état des locaux dans lesquels les suspects sont retenus, qualifiés d'indignes par la contrôleure générale des lieux de privation de liberté dans son dernier rapport, et tout autant indigne bien sûr pour ceux qui y travaillent. Mais sans attendre les suites judiciaires de ce dossier, les deux policiers ont donc été suspendus par le préfet de police dès leur placement en garde à vue jeudi.
Jean-Philippe Deniaud, au service police-justice de France Inter. Hier soir à Clermont-Ferrand, un homme a été tué par balle, un autre est blessé. Ça s'est passé dans un quartier de la Croix de Néra, quartier réputé pour son trafic de stupéfiants. La piste d'un règlement de compte, selon la police, Joshua Mithivier.
C'est donc un nouveau cas de violence lié au trafic de drogue dans la capitale auvergnate. Des tirs de Kalachnikov qui ont fait deux victimes. D'abord un jeune homme de 20 ans, connu des services de police pour trafic de stupéfiants. Touché à trois reprises au thorax et l'abdomen, il n'a pas survécu à ses blessures. L'autre est un homme de 53 ans, blessé au bras, potentiellement une victime collatérale selon le parquet de Clermont-Ferrand. Il a pu quitter l'hôpital ce matin. Mais c'est donc un nouveau drame dans ce quartier gangréné par le narcotrafic. Il y a à peine un mois, une autre fusillade a fait un blessé dans le même secteur, des violences que l'ancien ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, avait qualifiées de guerre de territoire. Guerre qui, cette année, a fait au moins 5 morts et un blessé grave.
Et aucun suspect n'a encore encore été interpellé après cette fusillade. Hier soir à Clermont-Ferrand, c'était Joshua Métivier. Ici, pays d'Auvergne. Pas de taxe Zuckman dans le prochain budget. L'amendement socialiste a été rejeté hier soir par les députés. Rejet également, plus tard dans la nuit, du gel des pensions de retraite comme le gel des minima sociaux. Sébastien Lecornu est d'ailleurs favorable désormais pour renoncer à ce gel des pensions et des prestations sociales. Un renoncement dont se félicite le président de la Confédération française des retraités. Il s'appelle Pierre Herps. Il était l'invité de nos confrères de France Info.
Nous sommes surpris par cette déclaration. Nous comptions donc sur le travail parlementaire, essentiellement pour revenir sur un certain nombre de dispositions qui, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, visent tout particulièrement les retraités. Donc, nous assistons à ce revirement donc du gouvernement qui revoit sa copie, visiblement, avec satisfaction. Alors, il s'agit évidemment d'une manœuvre, bien entendu, pour éviter un blocage. C'est pour ça que je vous parlais de ce revirement par rapport au dispositif donc qui était prévu par le gouvernement. Ouais. Cela dit, ça va dans le bon sens. Et je pense que au niveau des discussions parlementaires, eh bien, tout ceci finira par nous convenir.
Et dans ce marathon budgétaire, rien ne dit que les députés pourront respecter le calendrier très serré pour donner un budget à la France l'an prochain. Une incertitude budgétaire qui place d'ailleurs les communes dans un grand désarroi au moment où elles-mêmes doivent construire leur propre budget sans connaître donc les grandes orientations du gouvernement. Voilà pourquoi l'agglomération de communes de La Roche-sur-Yon a décidé de reporter son débat d'orientation budgétaire. Il n'y aura donc pas de vote du budget à La Roche-sur-Yon à la fin de l'année, dans les 13 communes qui composent l'agglo. Un front commun, donc, pour dénoncer une situation que les maires jugent intenable, Céline Oiseau.
Des efforts, ces maires disent en avoir déjà fait et être prêts à en faire encore. Mais aujourd'hui, pour François Gillet, maire d'hiver gauche de Dompierre-sur-Yon, celui qui est demandé est
disproportionné et il n'est pas juste.
Selon les calculs des services de l'agglomération, les recettes seraient amputées de 3 millions d'euros, alors que dans le même temps, l'État confie de nouvelles missions et donc des dépenses en plus. Pour ces élus, c'est un vrai choc budgétaire, avec à la clé un coup d'arrêt brutal, notamment sur les investissements. Ceux de l'agglo, comme ceux des communes qui la composent, on est tous dans le même bateau, d'après Alexandra Gaborio. C'est la maire d'hiver droite de Torigny, quelques 1200 habitants.
Dans nos petites communes, Torigny est une petite commune, sans l'apport financier de l'agglomération, notamment via les fonds de concours et l'ingénierie qu'on ne paye pas mais qui nous est mis à disposition, on n'investira pas nous non plus.
Des services aux habitants pourraient également disparaître selon ces élus. Reporter le vote des budgets des communes comme celui de l'agglomération à après les municipales, ce n'est pas une manière de fuir ses responsabilités pour Manuel Guibert. Il est le maire de Fougères et vice-président finance à La Roche Agglomération.
En tout cas, c'était pour marquer véritablement notre mécontentement, faire un coup de force pour essayer de faire réagir au niveau de l'État fortement sur toutes ces dispositions du projet de loi de finances. Mais non, en aucun cas, c'est pour rejeter la patate chaude au ciment.
Et pour ces élus, d'autres collectivités vont faire de même.
Céline Loiseau, reportage ici, Loire-Océan. Depuis ce matin, les exportations de bovins sont à nouveau autorisées en France, sauf dans 4 départements. Ces exportations étaient totalement interdites depuis le 18 octobre à cause de la menace de la dermatose nodulaire contagieuse. Et même si les rassemblements de bovins restent strictement réglementés encore, eh bien cette levée d'interdiction est une bonne nouvelle pour cette éleveuse du Berry. Elle s'appelle Ric Benoît. Elle est à la tête d'un élevage de 220 mères limousines.
C'est déjà bien qu'on a un peu de visibilité. Maintenant, on sait qu'à partir de ce week-end, l'export va encore être possible. Et ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai des collègues, oui, qui dépendent beaucoup de l'export, notamment pour les broutards. Et ça, c'est une bonne chose, quoi. Maintenant, on sait qu'on peut vendre même à l'étranger. Et c'est même rassurant pour les éleveurs étrangers qui viennent en France acheter des bovins. Voilà, il y a un peu de visibilité. L'export est possible. Et ça, c'est une bonne chose, quoi. Il faut bien rester vigilant sur ça. Ce n'est pas parce que l'export va ouvrir la semaine prochaine que la maladie, elle n'est plus là. La maladie, elle est toujours là. Il faut rester vigilant. Mais par contre, par rapport à l'export, c'est une bonne chose que les Français puissent exporter à partir de la semaine prochaine.
Voilà, pour cette éleveuse de limousine, au micro d'Alexandre Motto, ici Berry.
France Inter, le journal de 13h. Éric Delvaux.
Le Conseil de sécurité de l'ONU apporte un soutien historique au plan d'autonomie marocain pour le Sahara occidental. C'est un vote à l'initiative des États-Unis. Le texte est présenté comme une solution au conflit du Sahara occidental qui dure depuis 50 ans. Mais il pourrait aussi, ce texte, rendre et tendre un peu plus les relations entre le Maroc et l'Algérie voisine. Et ce matin, à Rabat, comme à Casablanca, des milliers de Marocains ont donc célébré ce vote du Conseil de sécurité. Reportage à Rabat de Sédic Khalfi.
Un moment historique pour les Marocains qui attendaient ça depuis le retrait de l'Espagne du Sahara occidental en 1975. 50 ans de conflit pourraient ainsi prendre fin. Dans le cadre de l'autonomie régionale sous souveraineté marocaine, le roi Mohamed VI s'est immédiatement adressé à la nation.
Après 50 ans de sacrifices, nous ouvrons un nouveau chapitre victorieux dans le processus de consécration de la marocanité du Sahara, destiné à clore définitivement le dossier de ce conflit artificiel par une solution consensuelle fondée sur l'initiative d'autonomie.
Ce matin, les Marocains se sont réveillés heureux. Pour Ahmed, les Sahraouis sont des Marocains justement comme les autres.
Bien sûr, comme tout le monde, comme les Marocains, comme tout le monde, il n'y a pas de distinction. Ils peuvent clore définitivement ce dossier qui a duré plus de 50 ans.
Rachid, lui, est retraité. Il a toujours connu ce conflit. Il salue l'avancée vers une solution pacifique.
Enfin, je crois que justice est rendue pour une résolution raisonnable, logique.
Proposé en 2007, le plan d'autonomie pour le Sahara occidental doit à présent être actualisé, puis présenté. Il sera enfin négocié dans le cadre onusien. Casablanca, Sidi Khalfi, France Inter.
En Égypte, après 20 ans de travaux, le grand musée sera inauguré en fin de journée au Caire. Le projet a coûté 1 milliard de dollars. Un bâtiment pharaonique, 50 000 mètres carrés, qui devrait attirer au moins 5 millions de visiteurs par an. Bonjour Jean-Guillaume Ollette-Pelletier.
Bonjour.
Vous êtes en direct du Caire, vous êtes docteur en égyptologie de l'Institut catholique de Paris, vous êtes aussi un influenceur égyptologue sous le pseudo frégyptologiste, et vous avez visité une grande partie de ce musée du Caire, pharaonique disais-je. Qu'est-ce qui impressionne d'ailleurs le visiteur quand il arrive devant et dans cet immense édifice de verre et de pierre, édifice très contemporain d'ailleurs?
Justement, en fait, cette contemporanéité qu'on retrouve dans l'édification du musée, ça rappelle un peu une quatrième pyramide qui accompagne en fait les trois autres du plateau de Gizeh. Et surtout, ce qui est très impressionnant, c'est cette entrée monumentale où on est accueilli par l'image de la statue de Ramsès II. Mmh. Et ensuite, quand vous arrivez directement à l'intérieur, vous remontez le temps.
Et statue de Ramsès II, 11 mètres de haut, ce colosse de 83 tonnes de granit. Cette statue a beaucoup voyagé depuis sa découverte en 1820 au sud du Caire. Est-ce que ce musée, ce grand musée du Caire, sera sa dernière demeure ?
Peut-être bien, mais pour l'instant, c'est quand même un magnifique écrin pour cette statue.
Quelles sont les pièces emblématiques, dont certaines d'ailleurs n'ont jamais été exposées encore, hein ?
Oui, alors il y a de très nombreuses pièces présentées. Certaines sont vraiment inédites, connues que par des seuls égyptologues. Mais en fait, moi, par exemple, il y a le trésor de la reine Hétéperès Ière, la mère de Khéops, qui est l'un des plus anciens trésors découverts de l'Égypte pharaonique. Le fait de le voir en vrai et aussi bien présenté, ça va être magnifique.
Je crois qu'il y a le bateau aussi pas loin, hein. Il y a un bateau à côté.
Exactement, la barque solaire de Khéops.
Une galerie est dédiée au trésor de Toutankhamon. Je crois que vous n'avez pas pu la visiter encore. Toutankhamon, la plus grande figure de l'Égypte ancienne, son masque funéraire en or. Est-ce qu'elle est parmi les plus belles pièces de ce musée ?
Ah ben évidemment, qui peut dire que le masque n'est rien ? C'est un masque absolument fascinant, qui en plus a toute une histoire d'usurpation, de remploi, et en fait qui finalement a marqué la popularité de l'Égypte au XXe siècle avec la découverte de Howard Carter. Et ce masque est juste trésor national, il va être sublime.
Le pouvoir égyptien décrit ce musée comme le plus grand édifice culturel du XXIe siècle. C'est donc aussi un pari politique et économique pour les autorités égyptiennes.
Tout à fait. Je pense que c'est vraiment aussi la meilleure vitrine qui soit pour agrandir la notoriété de l'histoire de l'Égypte pharaonique qui existe déjà depuis longtemps. Mais avec ça, avec un tel bâtiment, avec une telle cérémonie, avec une telle grandeur et avec tous ces trésors présentés, ça va faire qu'amplifier ce phénomène.
Et comment expliquer d'ailleurs la fascination d'une partie de la planète pour cette civilisation pharaonique ?
La civilisation pharaonique, c'est considéré dès les époques anciennes comme étant le berceau de l'histoire, ce qui n'est pas réel. Mais malgré tout, là en plus, il y a ces hiéroglyphes qui sont très mystérieux, l'or aussi qui est à foison dans l'Égypte, et puis ces temples et statues monumentales qui font rêver.
Merci beaucoup de ce commentaire et de cette visite que vous avez faite avant nous, Jean-Guillaume Aulette Pelletier, docteur en égyptologie de l'Institut catholique de Paris. Vous êtes aussi celui qui a découvert d'ailleurs les cryptographies de l'obélisque de la Concorde il y a quelques mois, ce qui vous vaut d'ailleurs depuis le surnom du Champollion du 21e siècle. Merci beaucoup et bonne journée.
Bonne journée, au revoir.
Nous partons en Tanzanie à présent, où la présidente sortante a remporté largement l'élection présidentielle. Samia Suluhu Hassan obtient donc un nouveau mandat de 5 ans. Depuis mercredi, la Tanzanie a sombré dans la violence. Les bâtiments officiels sont incendiés. Manifestation d'ailleurs que condamne ce matin la nouvelle présidente élue. L'opposition parle d'au moins 700 morts à Dar es Salaam en Tanzanie. Correspondance d'Élodie Goulesque.
Eh bien écoutez, le résultat a été annoncé sans surprise ce matin, 97,6% des voix pour Samia Suluhu Hassan, un chiffre qui n'est pas si surprenant puisque la présidente sortante avait écarté toute opposition crédible depuis des mois. Le taux de participation serait de plus de 85%, un chiffre qui est difficilement crédible. Les observateurs internationaux rapportaient mercredi, jour du vote, un taux de participation extrêmement faible. Les urnes que j'ai pu voir moi-même étaient effectivement plutôt vides. Depuis 3 jours, il y a d'importants mouvements de contestation dans le pays qui ont commencé dès mercredi. Même si elle briguait un deuxième mandat, c'est la première fois que la présidente Samia est élue par les urnes. En 2021, elle avait accédé au pouvoir en son statut de vice-présidente après le décès du chef d'État de l'époque, John Magufuli. Pour l'instant, Dar es Salaam reste calme, mais certaines ambassades ont d'ores et déjà recommandé à leurs employés d'éviter tout déplacement non essentiel dans la ville.
Élodie Goulesque, correspondante de France Inter en Tanzanie. En Serbie, depuis le début de la matinée, des dizaines de milliers de personnes convergent en silence devant la gare de Novi Sad. Novi Sad, c'est la deuxième ville de Serbie, là où il y a un an jour pour jour, un auvent en béton s'était décroché. L'accident avait fait 16 morts, dont 2 enfants. Et pour les manifestants, ce drame il y a un an est le symbole de la corruption qui gangrène, selon eux, les travaux publics de Serbie. Le sport, le football pour commencer avec le PSG qui va recevoir cet après-midi une équipe qui ne réussit pas 2 fois de suite en Ligue 1. L'OGC Nice a battu les Parisiens. Le PSG va donc vouloir prendre une revanche tout à l'heure et bien préparer la réception du Bayern Munich. Ce sera mardi en Ligue des Champions. Or, le PSG devra encore se passer de Désiré Doué qui revenait tout juste de blessure. Xavier Monferrand.
L'horizon semblait se dégager pour le PSG, mais Désiré Doué est revenu faire des heures sup à l'infirmerie. Lui qui venait tout juste de retrouver la compétition après 6 semaines d'absence en raison d'une blessure au mollet. Cette fois, c'est la cuisse et le PSG ne pourra pas compter sur son attaquant pendant plusieurs semaines. Pas d'OGC Nice au programme, donc, pour Désiré Doué et pas de Bayern Munich. Mais son entraîneur à Paris, l'Espagnol Luis Enrique, voit le verre d'eau à moitié plein.
On est préoccupé tous les jours de la santé des joueurs, mais ça forme partie du football professionnel. Et en ce moment, c'est seulement lui. On récupère des joueurs et c'est très positif pour nous.
Luis Enrique préfère compter les soldats qui sont là plutôt que ceux qui manquent à l'appel. Il n'empêche, l'Espagnol est à l'écoute de ses troupes.
Je cherche d'améliorer la performance individuelle de chaque joueur. S'il a besoin de repos, pour moi, ce n'est pas un problème. Je suis ouvert tous les temps à ça.
Et justement, pour affronter Nice et le Bayern, le PSG va récupérer Achraf Hakimi, absent à Lorient mercredi, que Luis Enrique avait volontairement laissé au repos.
PSG Nice, 11e journée de Ligue 1, ce sera donc le coup d'envoi à 17h. En voile, leur détresse avait fait le tour des réseaux sociaux. Les 2 skippers belges, Jérôme Delire et Caroline Dieu, en pleurent après avoir perdu une voile de leur classe 40. C'était mercredi en pleine transat Café Laure. Selon ces navigateurs belges, un avion était passé trop près de leur bateau. Des curieux en l'air qui voulaient, semble-t-il, prendre des photos du bateau. C'est en tout cas la version des 2 skippers. Eh bien, ce matin, la Marine nationale leur répond avec une autre version. Car l'avion en question n'était pas un avion de tourisme, mais bien un Falcon de la Marine nationale, Théophile Pedrola.
un Falcon 50, avion d'une vingtaine de mètres destiné à la surveillance maritime qui était justement en train de survoler la zone. Il a donc l'habitude de s'approcher de voiliers, voir si tout va bien, en l'occurrence de ce bateau engagé sur la Transat. Il n'avait pas de signalement AIS, un système d'identification par radar, en gros la carte d'identité du bateau. Le classe 40 penchait dangereusement, relativement classique dans une course au large. L'avion s'approche à environ 200 mètres, voit le bateau qui semble en difficulté, repasse, mais le classe 40 est relevé, sans souci apparent, donc le Falcon s'éloigne. En somme, la marine explique avoir voulu porter assistance à un bateau en potentielle difficulté. Les marins, eux, disent avoir été chahutés, leur voile déchirée par cet avion. C'est parole contre parole, publicité involontaire et inattendue pour ce duo belge, au fond du classement de cette Transat qui se retrouve avec la marine nationale sur le dos.
Théophile Pedrola, ici Normandie, le temps.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes et collants. Cachemire, fil d'Écosse, soie, coton ou laine. Bleu Forêt, un luxe français.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
Le retour de quelques éclaircies sur le nord-ouest cet après-midi.
Oui, après le passage de la perturbation, on aura donc un ciel de traîne du nord-ouest jusqu'aux Hauts-de-France avec des nuages encore nombreux, du vent mais aussi un peu de soleil. C'est notable. Notre perturbation, on va la retrouver entre l'Aquitaine et le nord-est. Le ciel sera encore perturbé près de la Méditerranée. Un ciel couvert avec des ondées, voire des pluies encore régulières sur les Cévennes. Un front pluvieux qui va se bloquer dans la soirée sur les reliefs de l'Est. On surveillera particulièrement les cumuls de pluie qui pourraient être importants la nuit prochaine entre le Jura et les Alpes, la nuit prochaine et demain également. Notez qu'on aura quand même du soleil encore toute la journée et un soleil voilé sur les Alpes et le Roussillon.
Et des températures encore très douces. Hein.
Oui, on reste 3 à 6 degrés au-dessus des normales de saison avec 14 degrés pour la plus basse à Brest cet après-midi, 15 à Lille, 16 à Paris, 17 à Dijon, 19 à Agen, 20 degrés à Toulon, 22 à Toulouse et 23 à Bastia.
Les prévisions de Céline Dacosta.